Je ne sais pas si on s'achemine vers une grave crise entre la Belgique et le Congo. Je crois plutôt qu'on s'achemine vers une aggravation de la crise congolaise et donc d'une crise entre le Congo et la communauté internationale. Notre ministre des Affaires étrangères s'est exprimé de manière très dure, provocatrice en tout cas, très peu diplomatique. Mais pour le reste, dans son jugement très pessimiste sur l'évolution au Congo, il dit tout haut ce que beaucoup pensent. On constate effectivement que les choses dérapent à un point tel que l'on peut commencer à penser que cette nouvelle transition, parce que c'est la troisième ou quatrième, début des années 90, est en train d'aller droit dans le mur.
Il y a tout de même un changement de cap dans la diplomatie belge vis-à-vis de Kinshasa. Le président, ministre des Affaires étrangères, Louis Michel, s'était posé un peu en médiateur dans la région.
C'est sûr qu'il a imprimé un grand tournant à la politique internationale de la Belgique, en opérant ce qu'on a appelé le retour de la Belgique au Congo et en Afrique centrale. Mais il est possible que le fait qu'il ait préféré partir à l'Europe et quitter les affaires étrangères soit en partie lié au fait qu'il sentait lui aussi que les espoirs qu'il avait placés dans une influence positive de la Belgique en Afrique centrale étaient en train d'être démentis. Il me paraît sûr qu'un infléchissement de la politique belge est nécessaire.
Mais est-ce qu'on veut remettre en cause l'implication de la Belgique en Afrique centrale ?
Parce qu'en Belgique, les relations avec l'Afrique centrale sont toujours un sujet de division politique. Alors c'est possible qu'avec le nouveau ministre, il y ait un retour d'un discours qui existe en Belgique, selon lequel la Belgique a mieux à faire ailleurs dans le monde.
Alors quelle est-elle cette réalité congolaise ? Qu'est-ce qui vous fait dire que le Congo va droit dans le mur ?
Tout est assez préoccupant. L'architecture institutionnelle qui a été mise en place à Sun City est une incroyable complexité. On sort de plusieurs années de guerre et sont associés au pouvoir des gens qui se sont combattus et des gens dont certains sont compromis dans les graves violations des droits de l'homme et des opérations de pillage des ressources du Congo. Enfin, il y a des hommes qui s'affrontent pour le pouvoir, qui sont, comme l'a toujours été l'élite politique congolaise depuis longtemps, déconnectée des évolutions à l'intérieur de cet immense pays. Donc il n'y a aucune coordination, aucune cohérence, et on est dans une situation qui favorise l'extrême corruption. Il y a de plus en plus de témoignages. On les tenait un peu sur le boisseau jusque maintenant, mais maintenant ils commencent à sortir. Sur l'ampleur des détournements, on ne peut pas dire que l'unification de l'armée congolaise se soit faite. Au niveau local, on a encore des milices qui échappent à l'autorité du gouvernement central. Et de plus, au niveau central lui-même, le président Joseph Kabila a gardé une mainmise directe sur des éléments importants de l'armée. Pour cela, il draine des ressources budgétaires importantes au détriment du ministre de la Défense et de l'état-major qui sont privés de moyens.
Alors que peut faire la communauté internationale et quelle communauté internationale ?
Là oui, sans doute la composante la plus importante sont les institutions financières internationales, c'est-à-dire le Fonds monétaire et la Banque mondiale qui se sont très fort réimpliqués depuis 2001 et jouent un rôle tout à fait déterminant dans la définition de la politique économique et financière du pays. Le pays est mis sous une espèce de semi-tutelle qui est très peu efficace dans la mise en œuvre des politiques. Il n'y a personne qui coordonne et maîtrise le jeu politique. C'est une lutte de clans, de factions. Tout le monde cherche qu'à se positionner en vue de lendemains imprévisibles.